une chose, une seule à préconiser, qui est la recherche sur le terrain.
La curiosité, toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les choses.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio 91 FM+, et on débute cette deuxième partie de matinale avec l'émission Doctoradio, l'émission où des thésards de tous les horizons viennent jusqu'à vous pour vous raconter leurs recherches, leurs trouvailles, leurs découvertes qui bouleverseront peut-être un jour notre société. Alors aujourd'hui, pour animer la mission, je suis accompagnée de Guilhem, qui devient un habitué des lieux, car Aliénor n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais nous pensons très fort à elle.
Et on l'embrasse. La guerre de Troie, n'en déplaise à certains, a bien eu lieu, mais aujourd'hui c'est à une valse à trois temps que nous convient nos invités. Vous l'aurez deviné, le thème du jour, c'est l'Antiquité. Mais pas tout à fait, puisque notre troisième invité, notre troisième intervenante, se permettra même un petit pas de côté en nous parlant d'une autre thématique, surprise, suspense. Donc nous accueillons aujourd'hui trois invités, je l'ai dit. D'abord Sandrine Perra. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Alors Sandrine, tu es en première année de thèse à Sorbonne Université.
C'est ça.
Dans l'unité de recherche Rome et ses renaissances.
Voilà.
Tout un programme. Et tu travailles donc sur les femmes de la famille impériale sous l'Empire romain.
Voilà, voilà, très exact.
Très bien, merci. On écoutera ensuite Emmanuel Gégaud. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Emmanuel qui est en troisième année de lettres classiques au laboratoire Cressem, qui est donc le, enfin, on le sait tous évidemment, je le rappelle, le centre de recherche sur les sociétés et environnement en Méditerranée. Une sorte de club med académique, donc. Tu étudies la violence au théâtre, la violence du théâtre, dans les pièces du dramaturge comique grec Aristophane.
Oui, c'est ça.
Et puis on terminera, vous l'attendiez tous, avec Anna Eberlé qui revient nous honorer de sa présence. Anna qui est en deuxième année de thèse. Bonjour Anna.
Bonjour.
Anna, tu es en études italiennes au sein du laboratoire RESO.
Tout à fait.
Qui est donc le laboratoire de recherche sur les Suds et les Orients.
Exact.
Jusqu'ici, on est bon.
Oui, on est bon.
Et tu travailles notamment sur les notions de maternité et de non-maternité dans la littérature italienne contemporaine.
Tout à fait.
Très bien. Donc, merci à vous trois d'être ici pour cette émission qui s'annonce déjà au Panthéon de Doctoradio. Et donc, Anna, pardon, je précise que tu vas nous proposer une chronique sur un livre que tu as lu récemment. Bravo, tu as lu un livre.
Merci de venir nous
en parler. On a hâte de l'écouter. Et je vous remercie à nouveau. On vous remercie à nouveau.
On vous remercie d'être présente aujourd'hui. Et donc, on va commencer avec Sandrine. Est-ce que tu peux nous raconter de quoi parle ta thèse en 3 minutes?
Chrono.
Bien sûr. Alors, de façon générale, lorsqu'on imagine la société romaine, on a en tête une société qui est patriarcale, où la femme est astreinte à une sphère domestique. En réalité, c'est quelque chose qui évolue sous l'Empire romain, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ. Dans le cadre d'un pouvoir héréditaire et dynastique, les femmes sont absolument nécessaires pour transmettre la légitimité à régner au sein d'une même famille. Alors ça, c'est pas tout à fait nouveau comme rôle. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que ces femmes-là, elles bénéficient d'une immense visibilité. Et ça, c'est complètement nouveau. Elles sont honorées dans toutes les cités de l'Empire à très très grande échelle. Et on n'a pas l'habitude de voir des femmes comme ça. Moi, dans ma thèse, je m'intéresse à tout ce qui est images et discours sur ces femmes impériales. Et je me pose la question très, très bête, eh bien, de comment les populations, plus précisément d'Italie et d'Afrique romaine, percevaient, honoraient, représentaient toutes ces femmes de pouvoir finalement. J'adopte donc un point de vue qui est local et pour cela je travaille sur des sources qui sont un peu particulières, des inscriptions, des statues, des monnaies, parfois le culte aussi, des cérémonies ou des édifices qui sont construits pour ces femmes impériales. Et à travers toutes ces sources, j'étudie comment est-ce qu'on construit la femme de pouvoir dans une société qui n'en avait pas avant. Donc pour ça, je m'intéresse à tout ce qui est nom, la façon dont on va modeler leur corps, quels traits on va accentuer, est-ce qu'on l'associe à d'autres membres de la famille, ou à des divinités aussi? Est-ce qu'il y a des adaptations locales, selon les régions, ou est-ce qu'on met en place ces images et ces discours? Ensuite, je m'intéresse à ceux qui vont fabriquer et commander ces honneurs, ce sont des locaux. et notamment des femmes, qui vont profiter ici de cette nouvelle visibilité féminine, publique, pour bien se promouvoir elles-mêmes également. Et puis sur les raisons qui font qu'ils agissent, est-ce que c'est en lien avec un événement? Est-ce qu'il y a des réseaux ou parfois une affection très particulière à une figure féminine? Ça peut arriver. Enfin, je m'intéresse à l'objectif de toutes ces inscriptions, statuts, qui est d'être vu hein, par les autres habitants, mais du coup, par qui précisément? Où est-ce qu'on va exposer tout ça dans les cités? Est-ce qu'il y a des lieux privilégiés, interdits? Est-ce que l'image ou le discours va changer selon le lieu d'exposition? Ça peut arriver. Et pour remettre tout ça en contexte, je vais vous prendre un tout dernier exemple. À Carthage, donc en Tunisie actuelle, au nord de la Tunisie actuelle, on a retrouvé une tête colossale de Lucilia, qui est une impératrice de la fin du IIe siècle de notre ère. Colossale parce qu'elle fait 1,60 m de haut. C'est quelque chose qui est très très grand. Si on l'associe à une statue qu'on n'a pas du tout retrouvée, c'était quelque chose qui devait faire à peu près 5-6 mètres de haut. Donc très très mastoc. Oui. Et c'était exposé dans... c'est ça à peu près. Et c'était exposé donc dans un édifice judiciaire très très important de la cité. Il faut imaginer qu'elle était sans doute associée à son mari et empereur Lucius Verus. Et tous les deux, il faut imaginer deux statues de 5-6 mètres de haut en position centrale, qui avait un regard fictif, du coup, sur les affaires judiciaires de la cité. C'est un poids qui est très, très important. Et à mon sens, ici, on n'est plus seulement dans un rôle dynastique de la femme, mais la femme deviendrait propre à incarner le pouvoir impérial. Donc, dans mon idée, c'est qu'on évolue vers une image féminine du pouvoir impérial.
Donc, ça opère un renversement avec ce qu'on avait dans la période précédente.
C'est ça, c'est ça.
Merci beaucoup Sandrine, c'était vraiment très clair.
Absolument passionnant.
Alors, j'ai une première question, peut-être d'ordre pratique, mais est-ce que ça te pousse à voyager sur les lieux donc, comme il y a une part d'archéologie dans ta thèse, et donc de recherche et aussi d'histoire et d'histoire de l'art, est-ce que tu es amenée à te rendre en Afrique du Nord, en Italie régulièrement pour aller consulter de toi-même, les objets, les inscriptions qui constituent ton corpus de thèse?
À mon sens, c'est absolument nécessaire de se déplacer. Alors pour le moment, j'étais vraiment dans la phase où je récupérais toutes ces inscriptions à travers des corpus. Ouais. Dès l'année prochaine, je vais devoir voyager justement pour aller voir tout ça.
C'est malheureux.
Ah, mais tout à fait. Ça va faire beaucoup, beaucoup de voyages, donc il va falloir répartir tout ça. Mais oui, beaucoup en Italie, beaucoup en Afrique du Nord. Même si tous les pays ne vont pas être accessibles, forcément.
Ouais.
J'ai moi-même une question qui est un peu liée d'ailleurs à la question de Camille, puisqu'elle concerne peut-être un peu plus des points méthodologiques. On l'a dit, tu as une formation d'historienne de l'art et aussi un peu d'archéologue. Alors justement, est-ce que sur ton sujet de thèse, quelqu'un en toi prendrait le pas entre l'archéologue, l'historienne ou l'historienne de l'art, ou est-ce que ces trois personnes cohabitent en harmonie?
Bien. Je dirais bien que ça cohabite en harmonie, mais ça dépend des jours. Ça dépend bien
de... Comme dans Split, en fait.
Voilà. Bon, quand on se réveille le matin, on ne sait jamais ce sur quoi on va tomber. Ça dépend des sources qu'on traite, en fait. Elles ne s'abordent pas de la même manière. On ne va pas aborder une statue de la même façon qu'on va aborder une inscription, parce qu'il n'y a pas les mêmes messages derrière. Donc, il faut jongler entre plusieurs méthodologies, tout en ayant, un fil rouge, un axe d'étude, parce que sinon, on se perd forcément.
Et est-ce qu'il y a une difficulté j'imagine qu'il y en a une, à se retrouver face à des objets qui nous parviennent uniquement par fragments parfois. Donc par exemple, pour trouver peut-être l'identité non seulement des personnes qui créent ces objets, mais en plus pour trouver l'identité des personnes dont ces objets parlent, est-ce que parfois il y a un flou, est-ce que parfois il y a vraiment un travail de recherche extrêmement approfondi pour réussir à reconstituer ou à restituer le sens de ces objets-là?
L'immense majorité de mon corpus, ce sont des fragments. Donc, on essaye de deviner souvent, c'est un travail qui a déjà beaucoup été fait auparavant, on essaye de deviner qui se cache parfois derrière ces fragments, notamment pour les inscriptions, ou quand on a des statues qui n'ont plus de tête. Mais on ne peut jamais être sûr à 100%, donc le travail il va quand même être très limité. Et dans ce cas-là, on peut ne partir que sur la base d'hypothèses, tout en ne prenant pas non plus pour acquis les identifications qu'on peut faire derrière. Ça, c'est essentiel.
Oui, tout à fait.
Moi, j'ai juste une petite question, parce que tu parlais de culte.
Anna.
Et, et du coup, je voulais savoir, est-ce que par exemple, il y a un culte que tu as repéré, ou même peut-être un objet en général qui t'a particulièrement frappé et que tu pourrais partager, juste pour donner un peu un exemple plus concret?
Eh bien, les impératrices notamment, mais pas que, il y a quelques femmes d'exception, qui vont être divinisées à leur mort. Et donc, on développe en fait un culte pour ces femmes-là, aux côtés des autres empereurs qui vont être divinisés aussi. Donc en fait, on a des femmes qui deviennent des semi-divinité si on veut, parce qu'elles ne sont jamais au rang des dieux non plus, un peu comme les empereurs, elles ne sont jamais au rang des dieux, et on va les honorer. Alors toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on leur rend un culte. Est-ce que ce sont juste des petites cérémonies par-ci par-là, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Ça, c'est à creuser encore.
Ça doit être passionnant.
ça l'est.
Merci beaucoup Sandrine pour cette intervention très intéressante. On va passer maintenant à Emmanuel. Emmanuel, on le rappelle brièvement, tu travailles sur la violence, les violences chez Aristophane. Est-ce que tu serais d'accord pour nous en dire un peu plus?
Bien sûr.
C'est très magnanime de ta part.
Oui, donc alors moi je travaille sur la violence et plus spécifiquement la violence physique ou le passage du verbal au physique. Dans la comédie d'Aristophane, donc dans le théâtre grec antique, qui n'a rien à voir avec notre théâtre actuel, puisque c'est vraiment un temps de rituel en l'honneur d'un dieu, le dieu Dionysos, le dieu du théâtre à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est vraiment un temps, comme je disais, rituel, donc qui suit une certaine méthodologie, qui a des passages obligés, et un de ces passages obligés, il semblerait, dans la comédie, c'est la mise en scène de violences verbales, mais surtout physiques. Une violence qui, malgré le fait qu'elle soit réprouvée dans la cité, est vraiment abondante dans le théâtre. Donc, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une telle mise en scène de la violence comique, et surtout pourquoi, contrairement à la tragédie, elle n'est pas réprouvée, puisque la tragédie met en scène la violence physique pour la réfuter, la comédie s'en amuse et ne la juge pas du tout. Donc, pour faire ça, j'analyse non seulement le vocabulaire, les types de personnages qui sont impliqués dans la violence, les relations entre eux, mais aussi l'évolution des personnages au sein d'une même comédie par rapport à la violence, puisqu'il arrive très souvent que le héros comique au début de la pièce soit complètement dépourvu face à la violence physique qui s'exerce contre lui, qu'il cherche une solution et qu'à la fin il soit devenu maître de cette violence. Donc il y a une vraie initiation par le théâtre à la violence qui me semble très intéressante en ce qu'elle est complètement opposée à la dynamique de la cité. Donc c'est une analyse, à la fois quantitative et qualitative qui s'intéresse à l'évolution, comme je disais, de la violence physique et de la maîtrise de cette violence physique dans la comédie et à ses interactions avec les spectateurs, puisque forcément la plupart des spectateurs au théâtre, ce sont des citoyens, donc ce sont des gens qui sont habitués à voir la violence de façon négative, la violence physique qui est réprouvée par les tribunaux et par les institutions athéniennes. Et donc ils sont impliqués dans une représentation dans laquelle ils doivent rire. Et ils doivent rire de cette violence physique qui, normalement, leur fait peur. Donc, en plus d'étudier l'évolution de la violence dans la comédie, je regarde aussi donc, les interactions avec les spectateurs, comment le public est impliqué dans la représentation, puisque, contrairement à notre théâtre actuel, où la norme, c'est plutôt d'avoir un espèce de quatrième mur qui sépare le public et la mise en scène, dans le théâtre athénien, le théâtre antique, il y a une vraie interaction, puisque c'est un rituel, et le public doit rire et doit participer pour que le rituel fonctionne. Donc il faut les faire réagir face à cette violence, et surtout, comme je disais, il faut les faire rire, il faut leur faire accepter la violence, ou réprouver cette violence, mais de façon comique. Donc pour faire ça, je travaille sur un corpus de 11 pièces complètes qui nous sont parvenues, c'est pour ça que j'ai choisi Aristophane, c'est le seul dramaturge comique dont nous ayons conservé 11 pièces, et... J'étudie ce qu'on peut déduire de cette mise en scène et de la façon dont il représente la violence physique au public.
Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Pour cette présentation. On va revenir vers toi dans quelques minutes pour les questions que nous imaginons nombreuses de part et d'autre de cette table. En attendant, nous vous proposons, une fois n'est pas coutume, une petite pause musicale avec une chanson qui, je pense, fera vibrer les oreilles de beaucoup d'entre vous. La chanson, c'est, attention, accent anglais, Now We Are Free, composée par Hans Zimmer et chantée par Lisa Gerhardt pour la bande originale du film Gladiator de Ridley Scott. A tout de suite. Thank you.
Alors on est de retour sur Docto Radio.
Séchez vos larmes.
Avec Emmanuel qui nous a parlé de la représentation de la violence dans le théâtre d'Aristophane. Alors la première question que je veux te poser, c'est est-ce que tu es sensible à l'humour grec ? Est-ce qu'il y a un écart entre le comique auquel on est habitué de nos jours et puis le comique grec antique ?
Et précisons, l'humour grec moderne aussi, je pense.
Alors, il y a un décalage, forcément. D'ailleurs, un décalage qui doit être pris en compte, parce qu'il y a des réécritures et des réadaptations d'Aristophane contemporaines.
Ouais.
Et c'est un problème auquel les metteurs en scène contemporains sont un peu confrontés, puisqu'évidemment, il y a des plaisanteries qui sont très contextuelles,
ouais.
Qui parlent de la cité, qui parlent d'anecdotes qui se sont déroulées. Mais l'avantage, c'est que c'est une représentation qui est destinée à un public qui est très, très hétéroclite, donc qui est composé de gens avec des horizons très divers et des éducations très diverses, ce que le dramaturge prend en compte. Et donc, il y a vraiment tout type d'humour dans sa comédie. Donc, il y a forcément quelque chose qui va résonner avec les individus, même de contemporains. Donc, moi, il y a des plaisanteries qui me font rire. pas toutes, honnêtement, pas toutes. Mais, je travaille dessus, donc forcément, j'ai le contexte.
Ouais.
Donc, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus drôle, ce qui est un des gros avantages du sujet. C'est plus j'en comprends, plus je trouve ça intéressant.
Est-ce que s'il y a un lien contextuel, il y a des références à des personnalités de l'époque qui viennent interférer dans les pièces ou...
Oui, il y a deux comédies en particulier, Les Cavaliers et Les Nuées. Les Nuées sont alors, peut-être un personnage plus connu en plus des personnalités contemporaines, mais Les Nuées sont une critique de l'éducation et le personnage qui représente l'éducation, c'est Socrate. Donc Socrate qui vivait à Athènes à l'époque, qui était sans doute dans le public. Il y a d'autres, donc Les Cavaliers, c'est une parodie du système politique athénien. Donc il y a Cléon qui est représenté sur scène sous la forme du Paphlagonien et qui est donc Cléon, un homme politique de l'époque en charge, enfin très en vue dans la cité, qui est vraiment critiqué de façon très acerbe dans la comédie, qui se retrouve frappé même. Donc c'est... Oui, il y a ces représentations.
C'est les guignols de l'info en jupe.
C'est ça, mais j'ai déjà utilisé cette comparaison devant mes étudiants parce que je trouve ça très, très pertinent.
Ah oui, clairement. PPD a un profil grec d'ailleurs. clairement. Pardon. Oui, non, parce que j'ai tellement de questions que en fait, je ne sais pas par laquelle commencer. Mais la première, justement, c'est peut-être de savoir si tu as pu avoir accès à des représentations contemporaines d'Aristophane.
Pas encore. Alors, on a organisé un colloque récemment à Perpignan en mars avec justement un metteur en scène de Marseille qui adapte Aristophane et donc qui est venu présenter un peu ses adaptations. Donc il a montré, je vais peut-être écorcher son nom, je crois que c'est Serge Valetti, et il a montré représentations. Il a montré un peu des extraits de ses propres mises en scène, donc j'ai eu cette vision. Évidemment, ce serait intéressant pour moi d'aller en voir plus, mais je n'ai pas encore fait la démarche. Mais il y en a plein.
D'accord. Est-ce qu'il y a différents... On parlait de la représentation de personnalités, on va dire, contemporaines des pièces.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont pris de manière comique ? Par exemple, je ne sais pas, des sujets mythologiques ou historiques ?
Oui, alors le décor de la comédie, c'est la cité athénienne, donc ça limite quand même un petit peu. Ouais. Mais dans certaines, il y a des apparitions de dieux sur scène. Dans les grenouilles, on voit le dieu Dionysos lui-même. Mm-hmm. Dans le Ploutos, c'est le dieu Ploutos, donc le dieu de la richesse. Et il y a des représentations un peu... le grand thème d'Aristophane, c'est le retour de la paix. Puisque la cité athénienne était en guerre, c'était la guerre du Péloponnèse à l'époque. Et son grand thème dans ses pièces de théâtre, c'est le retour de la paix. Il milite pour un retour pacifique. Et donc il met en scène, par exemple, un personnage dans La Paix, justement, la pièce qui s'appelle La Paix. Il met en scène le héros comique qui se rend sur l'Olympe pour aller négocier avec les dieux un retour de la paix. Ouais. Donc il y a une réinterprétation mythologique, mais toujours dans le cadre de la cité. Mmh.
Alors j'ai aussi une question, alors là peut-être un peu plus technique, c'est, donc on parle de catharsis, oui, dans le cadre de notamment de la tragédie, c'est-à-dire le fait pour un spectateur de se purger de ses passions à la vue du spectacle, soit de la crainte, soit de la pitié, enfin de manière un petit peu, bon voilà, simplifiée on va dire. Est-ce qu'on a cette dimension-là aussi avec la représentation de la violence? Est-ce que c'est une manière d'éviter que justement cette violence qui est représentée advienne dans la société, parmi les citoyens?
Alors c'est difficile à dire parce que il n'y a vraiment pas de critique sur scène de la violence, ou alors c'est une critique de la violence par certains personnages, mais pas de la violence physique dans son ensemble. Mmh. Donc la notion de catharsis, en règle générale, il vaut mieux l'éviter pour la comédie. Ouais. Il y a eu des études, il y a je crois une thèse qui date d'il y a quelques dizaines d'années déjà, qui s'appelle la catharsis comique, mais c'est vraiment un terme à employer avec des grandes pincettes.
Ouais, avec précaution.
Parce que c'est... Oui, mmh. Voilà.
D'accord, merci beaucoup.
Oui, j'avais une petite question. On a le droit de ne pas savoir, parce que c'était il y a quand même très très, 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 très longtemps, mais est-ce qu'on sait comment les spectateurs de l'époque, les spectateurs grecs, ont réagi face à ces comédies?
Alors forcément, on a des témoignages limités, parce qu'on a conservé 11 comédies sur les centaines qu'on en avait, donc forcément les réactions des spectateurs, on en a encore moins. On a certaines anecdotes qui date d'un peu après quand même, mais qui, par exemple, on a une anecdote qui date d'un siècle après, qui est un traité d'éducation, donc à prendre encore une fois avec des pincettes, puisque ça se veut un exemple pour les élèves, mais qui raconte que Socrate, qui était à la comédie, qui se trouvait moqué sur scène, se serait levé, aurait salué le public pour leur montrer qu'il était là et qu'il le prenait très bien. Voilà.
Yannick n'a rien inventé, finalement.
Il fait preuve d'autodérision, voilà.
Exactement.
Alors... Bah, merci beaucoup Emmanuel. On va passer à notre dernière intervenante, Anna. Donc tu es venue pour nous faire une petite chronique sur un ouvrage que tu as lu récemment. Alors dis-nous en plus, on t'écoute.
Oui, tout à fait. Alors merci déjà pour l'invitation. Donc, j'ai déjà eu l'immense honneur d'être invitée dans cette émission et de présenter sommairement mon sujet de thèse. Donc, je profite de cette seconde invitation pour m'étendre un peu plus sur le sujet à travers un livre. Donc en quelques mots, pour rappel, donc ma thèse porte sur les représentations des maternités et non-maternités dans la littérature italienne contemporaine. Donc j'analyse 9 romans de 9 autrices différentes et j'analyse dans chacun de ces romans la vision qui nous est donnée des différentes maternités ou non-maternités qui peuvent exister. Donc souvent on me demande pourquoi non-maternité, donc j'explicite un petit peu ici pour que ce soit clair pour tout le monde. La maternité va toujours de pair avec la non-maternité parce qu'elle est une injonction qui concerne toutes les personnes à utérus, toutes les femmes, et vis-à-vis de laquelle il faut toujours se positionner. Donc à titre d'exemple, dès qu'on a atteint l'âge de procréer tel qu'il a été décidé par la société, on posera probablement la question fatidique « les enfants, c'est pour quand ?». Donc un exemple parmi d'autres, bien sûr. Et lorsque je parle de non-maternité, donc ça concerne autant celles qu'on appelle les « child-free » en anglais. Donc on n'a pas de terme en fait, qui existe français. Donc les personnes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Et on a aussi les « childless ». Donc là, c'est les personnes qui n'ont pas d'enfants, mais pour qui ce n'est pas un choix. Donc ça va être pour des raisons d'infertilité, pour des raisons économiques. Il peut y avoir plein de contextes différents. Et donc pour mieux comprendre ce qui se joue politiquement et philosophiquement derrière cette grande boîte de Pandore qui est le sujet des maternités, donc j'en parle toujours au pluriel, parce que les expériences sont tellement multiples et variées que ce serait très essentialisant en fait, d'utiliser un singulier. Je m'appuie beaucoup sur les travaux de Camille Froidevaux-Métairie. Donc, c'est une philosophe féministe française qui a publié notamment son essai qui a fait date, c'est « Le corps des femmes, la bataille de l'intime », qui a marqué un tournant quand même dans la pensée féministe. Et le livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est son tout dernier essai que j'ai fraîchement lu et que j'ai trouvé passionnant, qui s'appelle « Un si gros ventre ». Et qui est sorti l'an dernier chez les éditions Stock.
Un si grand soleil, donc.
Un si grand soleil ?
Non, pardon.
Non, un si gros ventre. Donc un si gros ventre, pour que ce soit clair tout de suite pour tout le monde, en parlant de la grossesse. Donc je vous lis juste les toutes premières lignes pour vous donner un peu le ton. La maternité n'est pas objet de philosophie, pas même objet de réflexion. Elle se présente comme une évidence, arrimée à la condition féminine, son socle naturel, donc naturel entre guillemets, et indéboulonnable. Les femmes portent des enfants et les font naître, c'est leur destin. Donc ce que pointe du doigt Camille Froidot-Métairie dans son travail, c'est que le corps des femmes et ses fonctions, et plus précisément dans ce livre le processus de gestation ou grossesse, ne sont que rarement questionnés d'un point de vue philosophique et politique, ce qui crée une espèce de censure qui isole les femmes et qui les empêche de partager leurs expériences et de politiser ces mêmes expériences. Donc je vous remets un peu de contexte historique pour comprendre comment on en est arrivé à cette censure justement. Donc dans l'histoire du féminisme occidental, donc je parle principalement du féminisme états-unien et du féminisme européen, italien, français, enfin ceux que je connais le mieux, les années 60 ont été une période phare dans la conquête des droits reproductifs. Donc on a eu le droit à la contraception par exemple, le droit à l'avortement. Et dans cette perspective, en fait, la maternité était considérée comme l'emblème d'une condition de soumission et d'exploitation dont il fallait à tout prix s'extirper. Et donc à partir de là, en fait, on vit un enfouissement de toutes les thématiques corporelles et les femmes prétendent en fait qu'elles n'ont pas de corps, qu'elles sont des hommes comme les autres. Et c'est seulement à partir des années 80 aux États-Unis et plus tard, plutôt en Europe, au tournant des années 2000, que le corps, la corporéité, revient sur le devant de la scène. Et les études queer notamment ont largement contribué à rouvrir ce champ. Et lorsque Camille Froidot-Métairie commence à étudier donc, ce qu'elle appelle les dimensions incarnées de la vie des femmes, donc, c'est-à-dire tout ce qui a trait au corps, aux fonctions corporelles, elle raconte avoir été passablement agacée, puisque pour elle, en fait, c'est très clair, le sujet féminin dans sa dimension génitale a totalement disparu des études féministes. Donc elle est dans le courant philosophique. Donc je la cite, « Nulle part ou presque, il n'était question de ces problématiques corporelles que les femmes éprouvent au quotidien. Donc sexuation, avoir des seins, avoir ses règles, avoir un corps conforme. Maternité, désirer ou non, puis attendre ou perdre un enfant à accoucher. Sexualité, la découvrir, y prendre du plaisir, la subir, en souffrir. » Donc maintenant, j'espère que c'est un peu plus clair aussi ce que ça peut signifier, dimension incarnée de la vie des femmes. Donc sexuation, maternité, sexualité. Et puis, au début des années donc 2010, on vit une révolution féministe. Donc on entre dans ce que Camille Froidot-Métairie appelle la bataille de l'intime. Donc c'est le titre de ce premier essai dont je vous ai parlé. Et là, en fait, s'enclenche une dynamique de réappropriation et de libération des corps des femmes. En réalité, ça commence avec les règles. Donc le fait de pouvoir parler de ce tabou des règles. Et ensuite, suit toute la question des violences sexistes et sexuelles avec le mouvement et le hashtag MeToo. Donc voilà, on est dans cette période-là. Et c'est ainsi que toutes les thématiques liées à la grossesse, à l'accouchement, à la maternité, se trouvent elles aussi au cœur du débat. Et il s'agit donc précisément dans ce filon-là de se réapproprier la grossesse en luttant principalement contre la pathologisation du corps féminin, donc le fait qu'on considère le corps enceint comme un corps malade, ce qui n'est pas nécessairement le cas, et la déresponsabilisation des femmes, donc le fait qu'on les considère comme pas en charge réellement en fait de leur grossesse. Et cette attention portée aux maternités nous amène directement aux non-maternités, puisque, comme le précise Camille Froidot-Métairie, réclamer la liberté pour nos corps maternels signifie par ailleurs lutter pour celles qui ne souhaitent pas être mères, pour que celles qui ne souhaitent pas être mères, pardon, puissent réaliser leur projet de non-maternité. Donc c'est toujours une lutte convergente qui concerne absolument toutes les femmes. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous maintenant l'importance de se saisir de ces thématiques corporelles d'un point de vue féministe et politique, et je m'arrête ici.
Merci beaucoup, merci Anna, beaucoup. Cet éclairage très intéressant sur cet ouvrage.
Ça donne à penser, ça donne envie de lire.
J'espère.
De te lire aussi. j'ai une petite question dans laquelle je ramène comme un hamster dans sa roue mes petites marottes. Je pense au genre... en fait, je pense au cinéma et à la représentation de la maternité dans le cinéma et notamment dans le genre de l'horreur. Ça a été dans les années 70 notamment. Je pense à Alien, par exemple. Encore Alien. donc la maternité ou en tout cas la gestation comme quelque chose d'horrifique. Et je pense à la réappropriation du genre de l'horreur par des réalisatrices récemment. Je pense à Julia Ducournau, par exemple, dans Titane. Et c'est une suggestion, une remarque, mais est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé ?
Alors, moi, je suis très horrifiée, justement, par les films d'horreur. Donc, en fait, je les regarde très peu parce que ça me tétanise. Mais en tout cas...
Tétanise.
Tout à fait. Mais par contre, il y a vraiment ce filon-là dans la dystopie féministe. Donc là, en parlant plus de littérature, puisque moi, c'est plus ce que je connais. Et c'est quelque chose qui est très exploré, justement, l'aspect monstrueux lié à la maternité. Mais après, je pourrais pas t'en dire plus sur ces films-là que je ne connais que très mal. Mais en tout cas, c'est clairement, oui, dans la littérature aussi quelque chose d'exploré.
Ok.
Alors on laisse Merci. Cette question en suspens, voilà, la représentation dans le cinéma d'horreur. Malheureusement, on ne peut pas poser plus de questions parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
On aimerait.
On espère qu'elle vous a plu et intéressé autant qu'à nous. Merci encore à toutes les trois pour votre présence aujourd'hui.
Ben, merci pour l'invitation.
Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup.
On vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la prochaine émission de Docteur Radio. Merci également à Radio 91 FM+, de nous permettre de faire cette émission. À Tristan Poitvin pour le jingle composé des voix de Françoise Héritier et Claude Lévi-Strauss. Merci enfin à Alice Boost pour l'affiche et on vous souhaite une très bonne journée.
Il est l'heure de s'antiquiter.
Il faut avoir envie d'interroger le monde.
Il y a une chose, une seule à préconiser, qui est la recherche sur le terrain.
La curiosité, toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les choses.
Avance-t-il nous ?